Bon, on va commencer. Donc, merci beaucoup à Oliver Schlaud d'être venu, hein, d'être venu de Nancy, alors qu'il enseigne à Heidelberg. Heidelberg, vous connaissez bien, puisque vous avez tous subi un cours sur Max Weber. Hein, c'est la grande ville universitaire allemande. Il est donc philosophe, et parmi ses ouvrages, qui sont très nombreux, donc je suis allé voir sur le site Oliver Schlaud, Heidelberg. C'est beaucoup d'ouvrages. Donc je fais circuler après ces quelques ouvrages qui sont en langue allemande. Hein. Il y en a qui sont en langue anglaise, mais pas en français, je crois. Pas encore. Hein. Je présenterai très rapidement l'objet de sa conférence, hein, mais je soulignerai avant tout la grande multiplicité de ses intérêts, hein, puisque il va vous présenter ses travaux sur sur la politique des nombres, ou sur les nombres politiques, ou les chiffres politiques, sur cette espèce de cantophrénie, hein, pour reprendre le terme de Sorokin, qui s'est emparée depuis longtemps de notre société, hein, et que vous avez pu remarquer au plus tard avec les chiffres fantaisistes fournis par exemple par un Nicolas Sarkozy, qui connaissait très bien le taux de cheminots alcooliques, joueurs de boules. On pouvait lui poser la question, 7,92%, et ça y était. Hein. Donc le chiffre a une importance éminemment politique, comment le chiffre est, les nombres, les statistiques sont faits, Et ce qu'on en fait. Donc, vous vous basez sur un statisticien, un sociologue français, enfin en partie, hein, Alain Desrosières, qui laisse quand même une œuvre très importante. Je ne sais pas si on vous en a parlé dans vos cours de statistique et de démographie, mais qui aborde cette question, hein, gouvernée par les nombres. Donc, à côté de cette cantophrénie qui sévit de plus en plus dans nos sociétés, hein, il y a dans cette société algorithmique, évidemment, toujours plus place aux chiffres dont on peut contester la pertinence et la justesse. Donc, Oliver Schlaud s'est penché sur cette question-là dans un livre très clair, écrit pour un public éclairé, disons. C'est pas un livre pour philosophe, qui s'appelait les nombres politiques, les politischen Zahlen, sur la quantification dans le néolibéralisme, hein, que j'ai lu comme ça, presque d'une traite, parce qu'il y a ici beaucoup de littérature, etc., etc., donc c'est ça qui est intéressant. Et là où, donc, ça c'est... rapidement, vous voyez un petit peu le livre et les illustrations. Et moi, j'ai déconnu par l'intermédiaire de notre, je ne sais pas si c'est un inspirateur commun ou un ami commun, ou en tout cas, c'est une référence commune, qui est Alfred Sohn-Rethel. Je ne vous avais pas beaucoup parlé de ce personnage très à part de l'école de Francfort, qui très tôt déjà a développé une théorie de la connaissance marxiste, et qui a dû attendre, un peu comme Norbert Elias, dont vous vous souvenez peut-être, à peu près 70 ans avant que son œuvre soit connue. Et son œuvre va prendre de l'importance, notamment grâce à la publication que vous faites, hein, de ses écrits théoriques. Ça, je fais circuler ça pour que vous voyez aussi l'acribie dont font preuve les Allemands. Hein, il y a là, par exemple, les différentes éditions qu'on peut comparer, qui pour moi est effectivement très important. Et donc, c'est un auteur qui commence à être connu en France par des groupes d'extrême gauche, comme Crisis, etc. Enfin, ça, vous voyez sur vos réseaux sociaux, Palimpsao, des gens comme Anselm Yappe utilisent Alfred Sohn-Rethel peu à peu, notamment dû au fait que ses œuvres commencent vraiment de manière minime à être publiées en français, dont La Monnaie qui a été publiée à Bordeaux, aux éditions Tempête. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y avait un article de Bruno Latour dans Le Monde, je crois, sur une publication de Sohn-Rethel. Donc l'idée, c'est de développer une théorie de la connaissance pour le marxisme, puisqu'il partait de l'idée justifiée que Marx n'avait pas de théorie de la connaissance. Et donc c'est par le biais de Sohn-Rethel, qui était en contact très étroit avec notamment Walter Benjamin, qu'on a fait connaissance. Donc Voilà, donc je vous fais un micro pour que vous puissiez jeter un œil. C'est en allemand, mais c'est pour juger un petit peu de la comment dire, de la rigueur, hein, de l'acribie avec laquelle les intellectuels allemands prennent à cœur la publication d'auteurs majeurs, et Zonneret est véritablement un auteur majeur. On le nomme d'ailleurs le dernier marxiste, le dernier théoricien marxiste, à tort ou à raison, mais je pense que, vu l'ampleur de son œuvre, oui, c'est... Et donc, ce n'est qu'un aspect des travaux de Oliver Schlaut qui nous a parlé, en mangeant, de ses travaux en archéologie cognitive. Alors ça, s'il veut le présenter, il le présentera, mais en tout cas, il a vraiment un spectre très très large d'intérêt. Là, ce soir, c'est plutôt la métrique ou la métrologie, hein, qui l'intéresse. Comment on mesure, comment on quantifie. Évidemment, ça va aller très loin, ça va empiéter sur les biotechniques, sur, puisque je vois Julien Honneau sur le self-enhancement, etc., etc., etc. Donc, une sorte d'idéologie du chiffre s'est emparée de nous depuis bien longtemps. Idéologie de la mesure, hein, qui finalement n'en est pas une, puisque les chiffres sont avant tout là pour influencer l'opinion, et non pas pour établir des faits exacts. Enfin, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais il en retourne de ça. Voilà. Donc, je vous cède la parole, Oliver, et merci beaucoup d'être venu. C'est, je crois, le premier orateur de langue allemande, hein, que nous avons. Hein, nous avons toujours invité des francophones pure souche. Et Oliver Schlaut, qui parle un excellent français d'ailleurs, hein, est notre premier orateur de langue maternelle allemande. Alors, cherchez un français qui fera la même chose en Allemagne, vous pouvez chercher longtemps. Ah oui, mais bon, ça, ils ne le connaissent plus, Papillon, les étudiants, heureusement. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à Aldo pour cette très gentille présentation et pour l'invitation. Je ne m'attendais pas à tant de monde et je suis vraiment bouleversé. Et je suis aussi vraiment étonné par le fait que j'ai réussi à venir à Caen à la fin d'un hiver assez difficile, marqué par la grève et par des maladies. Hein. Donc la SNCF roule et moi, je me suis plus ou moins rétabli. J'ai laissé la grippe derrière moi. Je suis presque guéri et j'espère que ma voix tiendra pendant la conférence. Donc, je vais parler des nombres politiques, comme c'est indiqué là. Les nombres politiques, c'est aussi le titre de mon dernier ouvrage qui circule là parmi vous et qui, lui, à son tour, résume un séminaire que j'ai donné au campus trilingue de Sciences Po Paris à Nancy. Le séminaire, je l'ai donné en 2015, je crois. Il était intitulé « Governing by Numbers », la gouvernance par les chiffres. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est vous présenter une sorte de panorama de ce que j'ai développé dans le séminaire et dans le livre. Et je commence par vous présenter la littérature qui existe sur le phénomène que Aldo a déjà introduit et décrit, la présence des nombres dans la politique. C'est un phénomène assez nouveau, assez récent. Et aussi, son étude est assez récente. Donc, c'est une littérature qui est apparue dans les dernières années, avec une seule exception. C'est le premier livre à gauche en haut que vous voyez, Ted Porter, Trust in Numbers, La confiance dans les nombres. C'est un ouvrage assez célèbre qui date des années 90, si je ne me trompe pas, et dans lequel l'historien américain Porter reconstruit l'émergence de l'analyse coût-avantage et des statistiques dans le 19e siècle et dans le contexte des conflits sociaux et sociétaux qu'a vu ce siècle. Hein. Mais à part de ça, ce sont tous des livres qui ont apparu dans les derniers 10 ans, des livres assez différents, Il y a plusieurs recueils d'études de cas, les trois là par exemple. Hein, ce sont des études de cas assez focalisées, assez spécialisées, qui peuvent, mais ne sont pas toujours très intéressants. Et puis, il y a des études plus ciblées, comme par exemple celui-ci que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché, je n'aurais pas dû. On peut? Ah, c'est magique, assez intuitif, heureusement. The little big number, le petit chiffre gigantesque qui domine tout. Vous devinez de quoi il s'agit? Bien sûr, le PIB, le chiffre central dans la politique. Puis il y a aussi pas mal de livres qui se veulent plus critiques, comme par exemple celui-ci, The Seductions of Quantification. La séduction de la quantification, The Tyranny of Metrics, la tyrannie des chiffres, ou aussi un livre assez connu et vraiment qui vaut la peine d'être lu, Knowledge Corrupts Us, de Colin Crouch, dans lequel il décrit comment un style politique basé sur les chiffres ruine des métiers comme celui de l'enseignement. D'accord, donc ça c'est une littérature qui existe déjà. Je vous présente tout simplement le panorama pour vous montrer que c'est un phénomène qu'on étudie déjà. Certes, ça reste une littérature restreinte, faite par des spécialistes pour des spécialistes, mais quand même, je crois qu'on devine déjà qu'il s'agit d'un phénomène qui a une certaine importance dans notre monde d'aujourd'hui et dont vous devriez être conscient. Je ne crois pas que ce soit la peine de lire tout ça, mais c'est bon de savoir que ça existe. Ça, c'est la littérature en langue anglaise, mais il y a aussi pas mal de contributions en langue française, dont notamment les ouvrages d'Alain Desrosiers que vous avez déjà présentés dans la petite présentation.
Jerry Muller a été traduit en français.
Oui, oui, en effet, oui. The Tyranny of Metrics, celui-ci vient d'être traduit en français. Mais là, nous sommes vraiment dans la littérature franco-française et écrite en français. Alain Desrosières, les deux tomes de l'argument statistique pour une sociologie historique de la quantification et finalement gouvernée par les nombres, dont j'ai pris le titre pour mon séminaire, et un dernier qui a été publié après sa mort, prouvé et gouverné. Et ça, c'est vraiment une introduction merveilleuse à son œuvre. Donc, si vous vous intéressez à ce phénomène-là, c'est ce livre que je vous recommande de lire. En bas, vous voyez trois autres publications récentes et assez intéressantes. Le premier, Le monde en pièces pour une critique de la gestion, tome 1, quantifié, publié par le groupe Oblomov. C'est un groupe de scientifiques à la fois militants de l'extrême gauche. Puis une étude merveilleuse, Benchmarking, d'Isabelle Bruno et Emmanuel Didier. Et pour finir, Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, un cours qu'il a donné au Collège de France en 2012-2014, si je ne me trompe pas. Un livre qui est apparu en 2015, au même moment où j'ai donné mon séminaire avec le même titre, mais je n'étais pas du tout conscient de ce livre. Ça m'a très... il y a quelques semaines, j'ai appris l'existence de ce livre et je suis en train de le lire et de le découvrir. Donc ça, pour vous présenter la littérature. S'il y a une forte contribution dans la langue française, c'est, je ne crois pas par hasard, il y a... sans doute deux raisons pour cela. Ben, la première raison, c'est qu'en sciences humaines, la publication en langue française a toujours une grande légitimité, contrairement aux sciences naturelles ou à la philosophie. Donc là, vous êtes vraiment dans une situation assez confortable. Mais il y a une deuxième raison plus intéressante, c'est qu'il y a une sorte de racine commune à tous ces travaux. C'est bien sûr le cours que Michel Foucault a donné au Collège de France fin des années 70 et qui a été publié début des années 2000 sous le titre « Naissance de la biopolitique ». Et tous les travaux que je vous montrais, au moins les travaux francophones, se basent d'une manière ou d'une autre sur ce travail de Foucault, que je tiens donc de vous présenter brièvement. Pour moi, c'est un ouvrage infiniment riche et presque inépuisable, mais dans ce contexte de cette conférence, je me borne à vous présenter trois idées dans ce livre qui me paraissent importantes pour comprendre le phénomène des nombres politiques. La première idée clé de ce livre, pour nous, c'est l'idée du marché comme un lieu de vérité. Le marché, première chose que je devrais peut-être préciser, c'est que pour la pensée néolibérale, et c'est là que Foucault présente et analyse dans cet ouvrage, pour la pensée néolibérale, le marché, ce n'est pas le lieu de l'échange libre, comme il a été pour Adam Smith, par exemple. Non, c'est surtout le lieu de la concurrence. Le marché, c'est le lieu de la concurrence, et cette concurrence chez les néolibéraux, surtout chez Hayek, acquiert une dimension épistémique. Cette concurrence mène à la vérité, qui s'exprime, bien sûr, dans les prix. Les prix, ce sont des informations qui sont vraies, une sorte de vérité produite par le mécanisme de la concurrence. Et ça, c'est vraiment crucial pour comprendre ce qui va suivre. Car la plupart des nombres politiques sont en fait des prix ou au moins des quantités monétaires. D'accord ? Le marché comme lieu de vérité. Deuxième idée clé pour nous, l'État sous surveillance du marché. Dans l'époque néolibérale, selon Foucault, le rapport de force entre le marché et l'État a basculé. Avant, il s'agissait d'un marché surveillé par l'État. Le rapport a basculé et maintenant, c'est un État sous surveillance du marché, ce qui implique notamment, et c'est pour cela que je signale cette idée, ce qui implique notamment qu'on peut et devrait, dans cette logique, étendre les méthodes de gestion développées dans les entreprises privées au secteur public, ce qu'on appelle le New Public Management, dont je vais brièvement parler dans ce qui suit. Troisième idée clé pour nous, l'homo economicus, l'homme économique, comme interface du gouvernement et de l'individu. Je suppose que vous connaissez tous l'homme économique comme les économistes l'ont inventé pour modeler le comportement des acteurs économiques. Et dans ce livre, La naissance de la biopolitique, Foucault montre et souligne que l'homme économique joue plein de rôles différents. D'un côté, certes, il s'agit d'un modèle pour comprendre le comportement au marché, mais c'est bien ces rôles vont bien au-delà de cela. L'homme économique sert aussi d'interface comme un modèle pour comprendre et ajuster la manière dont l'État et les individus interagissent. Donc l'État, le rôle du gouvernement est de gouverner, donc d'influencer d'une certaine manière le comportement des individus dans leur vie privée ou publique, peu importe. Bien sûr qu'il y a une infinité de manières différentes d'agir sur les individus, de chercher à les influencer. On peut faire ça par la punition, par exemple, hein, ou par les incitations, ce qui a eu lieu aujourd'hui. Et là, nous, nous entrons dans cette époque néolibérale où l'État cherche à influencer nos décisions, notre comportement par des incitations en présupposant que nous sommes tous des acteurs économiques qui cherchent toujours à maximiser leur ce qu'on appelle l'utilité, leur bien-être subjectif, hein, en réagissant systématiquement à leur environnement. Et c'est donc surtout en façonnant l'environnement qu'on agit sur les individus. Hein. Donc il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir direct sur les individus, mais plutôt de créer un environnement qui va faire en sorte que les individus se comportent d'une certaine manière. Hein. Et dans cette conception de la politique, l'homo économique est crucial, car il décrit la manière dont l'État peut agir sur les individus. Donc, ce que Foucault appelle une interface entre le gouvernement et l'individu. Hein. Ça, ce sont trois idées clés qui sont importantes pour ce qui va suivre. Maintenant, nous pouvons lentement commencer à étudier, à faire la connaissance de notre phénomène, les nombres politiques, dont on peut dire en amont qu'il s'agit d'un phénomène multidimensionnel et donc multidisciplinaire. Un phénomène auquel s'intéressent plusieurs disciplines. La première, c'est bien sûr les sciences politiques, car comme je viens de le décrire, la présence des nombres dans la politique signale une certaine idée de gouvernance. Les nombres incorporent un certain idéal de gouvernance, d'une manière d'influencer les choix et le comportement des individus. Ça, j'ai déjà expliqué. Et je crois que je vais m'arrêter là. Non, je vois une note importante que je devrais ajouter. J'ajoute seulement la remarque qu'on doit bien sûr différencier entre les différents types de nombres qu'on rencontre dans la politique. Car si la présence excessive des nombres peut peut-être être un phénomène nouveau et récent, c'est pourtant un phénomène qu'on a déjà vu dans l'histoire, hein, notamment en Union soviétique, hein, où les nombres ont aussi joué un rôle crucial et important. Hein. Donc, ce serait... Si on ne veut pas trop simplifier, on ne peut pas se borner à parler des nombres dans la politique. Il faut spécifier de quel genre de nombres il s'agit ici. Et je vais expliquer plus tard à quel genre de nombres je m'intéresse et de quel genre de nombres je pense qu'ils sont vraiment le plus important aujourd'hui dans la politique. Donc, il peut y avoir différents genres de politique qui signale les différents idiots politiques. Donc ça pour les sciences politiques. Une autre discipline qui s'intéresse au phénomène des nombres politiques, c'est bien sûr le droit. Et c'est sur cela que focalise l'ouvrage d'Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, que je vais vous montrer sur un des premiers slides. Alain Supiot est juriste et si lui s'intéresse au nombre, à la gouvernance par les nombres, c'est parce qu'il voit très clair que ce qui est en jeu, ce sont les rapports entre les lois et le marché. Le domaine des lois et le domaine du marché, ce sont deux domaines différents. Qui peuvent avoir des relations assez variées et différentes. Ça peut être des domaines tout simplement séparés. Il se peut que le marché est basé sur les lois. Ça, c'est la vision ordolibérale du marché. Hein. C'est la variante allemande du néolibéralisme, disons. Hein. Donc l'idée d'un marché qui est basé sur les lois, l'État qui fait tout pour que le libre marché puisse exister, pour la concurrence puisse se développer. Mais c'est quand même l'État qui met en place l'infrastructure pour le marché, dont aussi l'infrastructure juridique. Donc ça, c'est un deuxième modèle pour la relation entre les lois et le marché. Un autre modèle serait que le droit lui-même est soumis à la rationalité économique, que la décision du juge devrait se réduire à une rationalité économique. Et c'est ça que craint Alain Cepio et qu'il critique dans son ouvrage. Il a vraiment peur que le jugement du juge, la jurisprudence, la prudence du juge, soit remplacée par un simple calcul économique. Et il milite contre cette tendance dans son ouvrage. Ce serait donc un troisième modèle pour les rapports entre loi et marché. J'ajoute un quatrième qui est peut-être celui de Hayek, et donc le plus néolibéral possible. C'est l'idée que le droit est lui-même le produit d'un marché, le produit d'une concurrence. Quand on lance des lois, qu'on les met en concurrence, et c'est un mécanisme de la concurrence, un mécanisme darwinien de la concurrence qui fait son choix, qui choisit les meilleures lois. Donc, une loi qui n'est pas à la base du marché, mais qui sort du marché. Donc, un monde à l'inverse, pour ainsi dire. Une autre discipline qui s'intéresse aux normes politiques, c'est bien sûr la sociologie. La sociologie, la littérature sociologique sur ce sujet est assez vaste, mais on peut pourtant identifier deux questions centrales. La première, c'est la construction des chiffres. Construire un chiffre, c'est toujours un acte social. Ça commence déjà par les nombres les plus basales. Quand il s'agit de compter quelque chose, pour compter des entités, il faut bien sûr une définition de ce qu'on compte. On peut compter des chaises, des hommes, des jours, n'importe quoi. Il faut toujours avoir une définition. Mais ce qui est plus difficile et plus intéressant, c'est que pour compter, il faut toujours décider si une entité qui voilà tombe sous la définition donnée. Compter des chaises, ça peut être assez difficile. Compter des hommes ou des femmes, là, nous sommes déjà dans le flou, car qu'est-ce qui est encore un homme ou peut-être déjà une femme? Aujourd'hui, ce n'est plus très certain. Et c'est un exemple où on voit très bien produire des chiffres reste sur une sorte de consensus sur ce qui compte comme X, Y, Z. Dans les outils très sophistiqués de la statistique moderne, ça devient encore beaucoup plus important. On peut le voir déjà dans le simple fait de compter quelque chose, mais ce côté social se développe encore plus dans la statistique. Donc ça, c'est une question centrale dans la littérature sociologique sur les nombres politiques, la construction sociale des nombres. La deuxième question à laquelle s'intéresse le sociologue, c'est celle de la subjectivité. Les sociologues ont très bien compris, beaucoup mieux que les philosophes, que la subjectivité n'est pas une constante historique, mais quelque chose qui se développe, qui peut être formé et déformé, notamment par la gouvernance et la présence des nombres dans l'espace public, dans la politique, va avoir un certain effet sur la subjectivité. Où subjectivité veut dire la façon dont chacun conçoit soi-même les autres, ses rapports avec les autres, sa place dans le monde, ses responsabilités, etc. etc. Tout ça, ce sont des variables qui peuvent être affectées et changées par exemple par la politique et notamment les nombres qui ont souvent le rôle d'introduire la concurrence entre les individus ont bien sûr des effets majeurs sur la subjectivité. Si on est soumis à un régime généralisé de la concurrence, ça doit avoir des effets importants sur nous. Ça pour la sociologie. Et Puis nous arrivons à la philosophie, qui est mon domaine, et c'est peut-être pas très évident qu'est-ce qu'un philosophe peut avoir à dire sur un tel phénomène social. Ben, avant de répondre à cette question, je devrais peut-être me prononcer sur une absence, l'absence de l'économie dans cette image. Hein. L'économie, pourquoi n'est-elle pas présente dans cette image? Ben, elle est et elle ne l'est pas. Elle est présente au milieu parce que c'est souvent l'économie qui produit les chiffres dont nous allons parler. Hein. Donc elle est vraiment au milieu de notre image. Ce sont les économistes, les econometricians. Comment est-ce qu'on les appelle en français ?
Les économétriciens.
Les économétriciens qui produisent les chiffres des prix, des quantités monétaires. Donc ils sont présents au milieu de l'image, mais ils manquent dans la périphérie, ce qui n'est pas dû au hasard, car ça reflète le fait que les économistes refusent la réflexion sur ce qu'ils font, hein, pour le dire très directement. Hein. Ils produisent des chiffres, mais ils ne se posent pas trop de questions sur ce qu'ils font, si c'est justifié ou non, quelles seront les conséquences pour la société. Ils s'en fichent. Hein, et ça, c'est une vraie absence, un refus de réflexion, je dirais. OK, mais maintenant, la philosophie. Que peut faire la philosophie là-dedans? Pourquoi un philosophe peut-il s'intéresser à ce phénomène? La réponse est facile. Les chiffres constituent une sorte de langage. Un langage qu'on utilise pour parler du monde. Et ce qu'il faut accepter et comprendre, c'est qu'un langage n'est jamais neutre. Un langage incorpore toujours un point de vue, une ontologie. Hein, c'est la non-neutralité fondamentale du langage. C'est un fait qui a été décrit, par exemple, par le philosophe américain William James, le fondateur du pragmatisme, dans son cours sur le pragmatisme. Il explique très, très bien, d'une manière très détaillée, très, très sophistiquée, l'ontologie qui est incorporée dans le langage de notre vie quotidienne. Hein? Mais la même chose est bien sûr vraie pour les langues artificielles, comme les chiffres, et notamment les chiffres politiques. Les chiffres aussi constituent un langage qui n'est pas neutre. Et qu'est-ce que veut dire qu'il n'est pas neutre? Ben, ça veut dire que c'est un langage qui a une certaine structure qui va faire en sorte que nous, en utilisant ce langage, nous dirons toujours certaines choses, même si c'est à notre insu, même si nous ne voulons pas dire cela, nous, il y a des choses qu'on dit, tout simplement quand on accepte un langage, et à l'inverse, il y a aussi des choses qu'on n'arrivera jamais à dire en utilisant un certain langage. Hein? Donc il y a là un vrai engagement ontologique, hein? ce qu'on appelle en philosophie un engagement politique. Hein? On dit des choses même si on ne veut pas, et on s'interdit de dire certaines choses même si on souhaiterait les dire. Ça c'est vraiment c'est expliqué dans l'abstrait total, mais vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Car maintenant, nous allons vraiment étudier les nombres politiques de plus près, en distinguant, pour le début, entre deux types de nombres, qui sont les deux types les plus importants dans la politique d'aujourd'hui, les indicateurs non monétaires et les indicateurs monétaires. Les premiers, je vais les présenter brièvement, ce sont plutôt les deuxièmes auxquels je m'intéresse. Donc, les premiers, les indicateurs non monétaires. Là, je m'appuie sur un ouvrage d'un économiste suisse, Matthias Binswanger, un jeune économiste très charmant, très intelligent, qui a rédigé cet ouvrage sur les indicateurs non monétaires. Déjà, la couverture vous montre que c'est un ouvrage qui s'adresse au grand public. Hein, mais c'est quand même un livre qui est très bien argumenté, qui est scientifique, hein, si vous voulez. Il s'appelle « Sinnlose Wettbewerbe », ça veut dire « la concurrence sans sens hein, », je dirais. Hein. Alors, vous avez une meilleure traduction, je ne sais pas, « Sinnlose Wettbewerbe ».
C'est surtout le sous-titre, pourquoi nous produisons de plus en plus de choses insensées, ou d'absurdité ou de bullshit.
Oui, du bullshit, c'est ça le bon mot, je crois. Sinnlose Wettbewerbe, la concurrence vaine. Oui. Alors, de quoi s'agit-il ici? C'est une partie de ce qu'on appelle le New Public Management, dans l'extension des méthodes de gestion développées pour des entreprises privées, et l'extension de ces outils de gestion au secteur privé. Et ce qui, au secteur public, pardon. Et ce qui distingue le secteur public, les hôpitaux, les universités, les écoles, la police, les pompiers, etc., ce qui distingue le secteur public du marché, c'est l'absence de la concurrence et des prix. Et dans la croyance des économistes, il faut la concurrence pour atteindre une certaine efficacité. C'est ça l'idée fondamentale. Mais il y a un problème, il n'y a pas de prix. Et donc, pas de comparabilité. Et pour établir, pour achever la compatibilité, il faut substituer au prix des prix artificiels qui sont les indicateurs non monétaires. Hein? Ce sont des indicateurs qui sont censés mesurer la qualité et la performance. Ce sont là les deux mots-clés qui reviennent toujours, la qualité et la performance. Et pour les mesurer, on développe des indicateurs parfois simplistes, parfois très, très sophistiqués, mais qui partagent tous un même problème, et c'est ça qu'analyse Binswanger dans cet ouvrage, un problème qu'on appelle dans la littérature économique le problème des incitations perverses. Et pour vous expliquer de quoi il s'agit là, je m'appuie sur un exemple, le H-index, l'index H, dans l'évaluation de la production scientifique. Donc, si on veut mettre en concurrence les scientifiques, si on veut mesurer leur productivité, on s'appuie surtout sur des outils bibliométriques. Donc, on part du principe que l'originalité et la productivité d'un scientifique se reflètent dans ses publications, ce qui est parfaitement raisonnable. Et on établit un indicateur qui prend en compte surtout le nombre de publications, c'est la productivité, le output, mais comme il s'agit de mesurer une qualité, pas seulement la quantité, mais aussi la qualité, l'originalité, l'appréciation par la commune scientifique, on combine le nombre de publications avec le nombre de citations. D'accord ? Et je ne veux pas nier que la productivité d'un scientifique peut se mesurer par un tel indicateur. Le problème n'est pas là. Le problème est là qu'on peut tout facilement améliorer son résultat, mesurer selon un certain indicateur, sans améliorer ce que l'indicateur est censé mesurer. Si la politique souhaite plus de publications et plus de citations, rien de plus facile que cela. Hein. On produit plus en coupant chaque article en trois. on se cite mutuellement et donc on fait exploser le nombre de publications et le nombre de citations. Avec le résultat que chaque article pour soi a de moins en moins de valeur. Donc, en établissant un régime de concurrence, pour améliorer la qualité, on a fait tout le contraire. On n'a pas amélioré la qualité, mais on l'a fait baisser. C'est ça qu'on appelle le problème des incitations perverses. On peut répondre à un indicateur sans toucher à la variable que cet indicateur est censé mesurer. J'ai présenté ce cas des indicateurs non monétaires parce qu'il est extrêmement important dans notre vie quotidienne. Mais en tant que philosophe, cela ne m'intéresse pas beaucoup. Hein, c'est quand même banal. hein, disons. Et c'est pour cela que je passe au deuxième exemple, les indicateurs monétaires, les prix. Car c'est ici que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue philosophique. Les prix. Alors, les prix jouent un rôle crucial dans la comptabilité nationale. J'ai cherché à illustrer avec cette belle image, un tableau qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Nancy et qui date de la fin du XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Il montre des comptables. des comptables. Et on peut très clairement observer l'effet que le travail avec l'argent a sur leur caractère. Hein. Un effet très mauvais. Alors, la comptabilité nationale et l'analyse coût-avantage, ce sont deux technologies qui travaillent dans le médium des prix, hein, travaillent seulement avec des quantités monétaires. Et c'est ici déjà qu'on comprend l'importance de ce phénomène. Car la comptabilité nationale et l'analyse coût-avantage, ce n'est pas n'importe quoi. J'oserais même dire que la comptabilité nationale, c'est quelque chose comme la conscience d'un État. Hein? L'État, la politique, prend des décisions et pour prendre des décisions, on commence par faire l'état des choses, hein, on commence par créer une représentation de la réalité. Et où est-elle, cette représentation de la réalité qui est obligatoire pour la politique? Elle est là, dans la comptabilité nationale. Hein. C'est elle qui fournit les données sur lesquelles s'appuient obligatoirement les politiques. Hein. C'est vraiment une sorte de conscience de l'État. Et la même chose vaut pour l'analyse coût-avantage. Et donc, on comprend facilement pourquoi le phénomène acquiert ici une dimension philosophique. Hein. La conscience, c'est quand même notre domaine. sauf qu'ici, ce n'est pas une conscience éternelle comme on peut la trouver dans l'œuvre de Kant. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus historique. C'est la conscience des États dans l'époque néolibérale en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, la comptabilité nationale, l'analyse coût-avantage, qui travaille seulement avec des prix, avec des quantités monétaires, qui sont une sorte de conscience gouvernementale. Et c'est ici que se pose le problème de la non-neutralité du langage. Les prix, d'abord, les prix sont une représentation de la réalité, une représentation de la qualité des marchandises, de la demande et de leur offre. Et un langage qui est pris pour neutre par les économistes. Mais on peut facilement douter de la neutralité. Pour faire cela, je m'appuie sur les travaux d'un autre économiste d'origine allemande, Karl William Kapp. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom. Il n'est pas très, très, très connu. Il a écrit un ouvrage qui est devenu un peu plus populaire dans les années 60, 70. 70, et c'est celui-ci, « Les coûts sociaux de l'entreprise privée ». Dans ce livre, il reprend notamment des idées qu'il avait déjà développées dans sa thèse qui date de 1936 et qu'il avait fait à Genève. Donc, il avait déjà quitté l'Allemagne. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça doit être autour de 1933 qu'il a quitté l'Allemagne, mais je ne sais même pas pour quelle raison. Pour des raisons purement professionnelles ou politiques, je n'ai aucune idée. Mais de toute façon, il avait quitté l'Allemagne et il n'est jamais retourné en Allemagne. Il a fait sa carrière d'abord en Suisse et puis en Angleterre, en Inde et en Chine. Ce qui veut dire que ces travaux sont facilement accessibles pour vous, car la plupart étant en anglais. Il y a quelques traductions en français, dont ce livre, « Les coûts sociaux de l'entreprise privée ». Et dans sa thèse, qu'est-ce qu'il montre? Il cherche à montrer justement la non-neutralité des prix. Il veut montrer que les prix incorporent un certain billet. Est-ce qu'on dit ça en,
oui.
En,
oui. Un billet, oui, oui.
Un billet, d'accord. Que le langage incorpore un certain billet systématique. Ce billet, en quoi consiste-t-il? CAP identifie trois points. Le premier, c'est que le langage des prix tient compte de la demande, mais pas du besoin. Et là, il faut vraiment faire attention, car les économistes ne tiennent pas à séparer la demande et le besoin d'une manière soigneuse. La demande est bien sûr liée au besoin. La demande et le besoin tels qu'ils s'expriment au marché. Mais pour pouvoir s'exprimer au marché, il faut être liquide, il faut être solvable. Donc la demande... et la demande, c'est pour ainsi dire le côté populiste de l'économie. Hein. C'est en insistant sur la demande, sur le poids de la demande, que les économistes cherchent toujours à montrer que le marché est la meilleure démocratie. Mais non. Hein. Pour voter au marché, il faut de l'argent. Hein. Et c'est l'argent qui transforme le besoin en demande. Hein. La demande et le besoin multipliés par la solvabilité. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez nulle demande, même si le besoin est urgent. Hein. Et dans le langage des prix, on décrit seulement la demande, mais jamais les besoins. Hein. Seulement des besoins transformés en demande par l'argent. Pas d'argent, pas de demande. Deuxième billet, le langage des prix ne tient pas compte de la déformation du besoin. Hein. Quand il y a un achat, les économistes partent du principe que par cet achat s'exprime un besoin qui est donné, qui est là, point final. Hein? Donc ils refusent de rendre compte du fait que les besoins eux-mêmes ont une histoire, peuvent être modifiés hein, par la publicité, par exemple. Hein? Troisième point important, le langage des prix tient compte des bénéfices individuels, mais non pas des coûts sociaux et environnementaux. Hein? Les prix se créent par l'interaction des individus, les vendeurs et les acheteurs, et chacun regarde seulement son bénéfice individuel. Et dans ce jeu, les coûts sociaux et environnementaux ne peuvent pas s'exprimer, hein, car c'est un jeu entre individus qui cherchent à maximiser leurs bénéfices. Pas de place pour les coûts sociaux. Et ça, c'est extrêmement important, hein, car ça veut dire que toute la dimension sociale et environnementale doit nécessairement échapper au langage des prix. Et c'est un point que je devrais davantage expliquer, peut-être, pour être prudent. Bah, déjà, je vois que j'ai mis... Dans les slides, je parle des coûts sociaux et environnementaux, ce que je regrette maintenant, car j'aurais dû mettre les dommages. Hein. C'est un langage, le langage des prix tient compte des bénéfices individuels, mais non pas des dommages sociaux et environnementaux. Car il y a bien une différence entre le dommage et les coûts. Les coûts, encore, c'est une représentation monétaire du dommage. Hein. Ça implique qu'on puisse exprimer le dommage créé par l'entreprise privée en argent. Mais est-ce que c'est possible? Une espèce éteinte, combien coûte-t-elle? C'est ça la question. Donc attention avec le mot coût. Je le dis à moi-même. C'est moi qui aurais dû faire attention. Donc première remarque, plutôt dommage que coût. Deuxième remarque, quel statut à ce problème au sein du capitalisme. C'est une question sur laquelle on peut facilement être très, très partagé. Hein. Pour certains, c'est une petite erreur qu'on doit chercher à corriger. Hein. Le capitalisme, le marché ne sont pas parfaits. Certes, il y a des choses qui échappent au prix. Peut-être qu'on arrive à les intégrer dans les prix. Hein. Par exemple, en établissement, un marché pour... l'émission des gaz à effet de serre. Hein? C'est une tentative de réparer les prix. D'accord? Hein? Donc, on reconnaît ce problème, mais on reste dans le langage des prix, on cherche à le réparer. Mais il y a d'autres qui pensent que le problème beaucoup plus grave, que le capitalisme est, pour ainsi dire, basé sur ce problème. Il y a un écart entre les bénéfices individuels et les effets pour la société, et c'est sur cet écart, en le transformant en profit, que fonctionne le capitalisme. En socialisant les coûts et en privatisant les bénéfices, on crée des profits. Et si cela est vrai, le problème est bien plus grave. Car dans ce cas, nous parlons ici vraiment du mécanisme même, du principe même du capitalisme. Et si c'est vrai, il serait vain de chercher à le réparer. Car ce n'est pas une pièce accidentelle qui est cassée, c'est le moteur même qui doit être cassé pour que le capitalisme marche. OK. Ces problèmes-là, comme je l'ai dit, ont déjà été décrits dans les années 30. Et aujourd'hui, on le sait et on le reconnaît. Même les économistes orthodoxes le savent. D'ailleurs, il me reste encore un peu de temps, quelques minutes ? Oui ? 10 minutes ?
Tout le temps qu'il faut.
Bon, j'en ai encore pour 10 minutes, je crois. Alors, si vous tenez encore, si je ne vous ennuie pas, je continue encore 10 minutes. Merci. Alors, ces problèmes sont vraiment reconnus par quasiment tout le monde aujourd'hui. Pensez, par exemple, ici en France, à la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, établie par Nicolas Sarkozy en 2009, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un président de la droite qui a établi une commission avec des économistes vraiment mondialement connus pour faire l'état des choses à propos des problèmes liés à la comptabilité nationale et pour explorer des alternatives. Et même l'Union européenne a lancé un projet Beyond GDP, au-delà du PIB, pour explorer des alternatives. Car tout le monde sait qu'il y a ces problèmes-là. Il y a quand même un désaccord. On est d'accord sur la présence de certains problèmes, mais on est en profond désaccord sur la manière dont on traite ce problème. Et l'approche conservatrice consiste à conserver le langage des prix et à essayer d'établir des prix qui tiennent compte aussi des dommages sociaux et environnementaux causés par l'entreprise privée. Et je vais vous présenter un exemple de cette approche. C'est l'approche de la Banque mondiale, qui a publié il y a quelques ans ce rapport-là, où est la richesse des nations, donc une allusion au grand livre d'Adam Smith, La richesse des nations. Et eux, ils posent la question, mais cette richesse, où elle est? Et ça indique déjà un doute. La conception traditionnelle, monétaire, capitaliste de la richesse ne tient pas, on le sait, donc on cherche à réparer. C'est ça le message, le message porté par le titre. Et dans le livre, les économistes de la Banque mondiale établissent un nouveau système de comptabilité nationale qui s'appelle Adjusted Net Savings. Et l'idée est de, pour me concentrer à l'essentiel, de tenir compte aussi des dommages environnementaux et sociaux. Donc, on part du PIB que vous connaissez tous et on ajoute, par exemple, les... Je n'ai pas le droit d'y toucher, il faut que je fasse attention... On ajoute les dépenses pour l'éducation, car dans le PIB traditionnel, les dépenses par l'État pour l'éducation ne sont pas prises en compte, elles n'existent pas, c'est du gaspillage, pour ainsi dire. Mais la Banque mondiale sait déjà, mais non, les dépenses pour l'éducation, c'est un investissement dans le capital humain que vous êtes. Donc il faut en tenir compte, on l'ajoute. Mais par contre, il faut aussi tenir de depletion of natural resources, donc les ressources naturelles qu'on brûle, et aussi les dommages, la pollution. Donc on fait une sorte de compte total La capacité économique du pays, telle qu'elle s'exprime dans le PIB traditionnel, mais on ajoute les dépenses pour l'éducation et on enlève les ressources qu'on a brûlées et les dommages qu'on a causés dans l'environnement. D'accord ? Donc, et ce qui résulte, ce qui est censé résulter dans une image corrigée du monde que nous habitons. Hein. Et c'est ici qu'on peut très facilement voir les limites et la non-neutralité, le problème de la non-neutralité de l'argent. Je ne doute pas de la bienveillance de ces économistes. Ils veulent vraiment bien faire, mais ils restent collés au langage des prix et c'est ce langage même qui leur interdit d'exprimer certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? On parle dans des quantités monétaires, on parle le langage des prix, ce qui permet aux économistes de la Banque mondiale de faire la somme de tous ces comptes-là, l'économie, l'éducation, la nature, mais ça implique au même moment que ces comptes se peuvent substituer les uns aux autres. Concrètement, si vous avez un problème avec votre environnement, il suffit d'investir plus dans l'éducation. Vous avez le droit de ruiner l'environnement que vous habitez si seulement vos investissements dans l'éducation sont suffisants. Et c'est ça la revanche du langage des prix. Pour le langage des prix, tous les biens peuvent se substituer les uns aux autres. C'est ça l'idée d'un marché en échange. On échange l'éducation contre la nature. Hein? Et c'est vraiment, c'est built-in. Hein? C'est la structure de ce langage. Et quand on accepte ce langage, on accepte aussi la structure et toutes les conséquences. Hein? Et là, on le voit. Hein? Je pense que l'intention des économistes est bonne, hein? Mais leur approche est vraiment catastrophique, hein? Vraiment catastrophique. Parce qu'ils proposent, ils finissent par proposer un modèle de sustainability.
De durabilité
qu'on nomme aujourd'hui la durabilité faible. Hein? Ça veut dire une durabilité qui permet de jouer sur les facteurs, de substituer les uns aux autres. Hein? OK. Un deuxième. Donc, ça, c'est un exemple pour les essais de réformer les systèmes de comptabilité nationale et qui sont conservateurs en ce qu'ils conservent le langage des prix. Mais il y a des critiques qui vont plus loin, qui sont prêts à abandonner le langage des prix et qui se disent, dans la politique, il s'agit de gérer et de maximiser le bonheur des gens. Et aujourd'hui, on a nul besoin des prix, car le bonheur des gens, on peut le mesurer directement. Hein? Rien de plus facile que ça. Et ce sont là les indicateurs comme le Happy Planet Index ou le Gross National Happiness qui se fait remplacer le PIB, qui sont des quantités non monétaires et qui s'appuient sur des mesures directes de votre happiness, de votre bonheur. On peut facilement avoir l'impression que c'est vraiment une rupture assez révolutionnaire, assez profonde avec le néolibéralisme qui règne parmi les économistes, mais seulement au premier regard, hein, si on étudie de plus près ces approches, comme l'ont fait Edgar Cabanas et Eva Illouz dans leur ouvrage Apicratie, rédigé en français, on voit très bien que tout le néolibéralisme est encore dedans. Hein, car il ne faut pas confondre le bonheur et la happiness. La happiness, c'est une notion très spécial et vraiment néolibéral du bonheur. Hein, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle subjective happiness. Hein, c'est une sorte de joie éprouvée par un individu isolé et radicalement isolé qui n'a pas sa place dans une société. Hein, donc, c'est un bonheur qui ne connaît pas, par exemple, la solidarité, la collectivité ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment c'est le bonheur du consommateur hein, qui bouffe, qui achète, qui consomme ce qui lui rend heureux en ce moment. Hein, et on cherche à mesurer ce bonheur et à le généraliser comme mesure pour le bonheur d'un pays entier. Hein. Donc, soit pour l'approche de la Banque mondiale ou pour ces approches plus radicales, vaut une conclusion exprimée par l'économiste Jean-Michel Servet, même s'il a dit ça dans un autre contexte, sur un magnifique livre sur l'économie comportementale. Je ne sais pas si vous connaissez l'économie comportementale. Elle est assez connue grâce au dernier prix Nobel qu'a obtenu l'économiste française Esther Duflo. C'est elle le champion de l'économie comportementale. Et ça aussi, c'est une approche en économie qui se veut hétérodoxe, hein, qui prétend à rompre avec les anciens dogmes. Mais en fait, si on regarde les choses de plus près, on voit que, comme le dit Servet, ce pragmatisme opportuniste qu'on peut voir à l'œuvre également dans la Banque mondiale, par exemple, dissimule un conformisme idéologique en phase avec le néolibéralisme. Donc tout est encore dedans et, je le répète, c'est un phénomène philosophique. Hein, car ce que nous faisons ici, c'est une recherche qui se localise au niveau du langage. Hein. Tout dépend ici du langage qu'on utilise. Hein. J'ai parlé des intentions des acteurs, mais vous avez bien compris que les intentions des acteurs ne comptent pas. Hein. Ce qui compte, ce qui décide sur le sort de leurs efforts, ce sont les outils qu'il utilise, hein, notamment le langage. Le langage n'est pas un outil neutre. Hein, il a une structure, il a des présuppositions qui restent dans quoi qu'on fasse. Hein. Donc, un pragmatisme en phase avec le néolibéralisme. Et c'est ça le dernier mot et la fin de ma conférence. Je vous remercie.